La musique tibétaine, conjugaison de sonorités, paraît affirmer une matérialité du souffle. Elle favorise de plus la montée vers des états de conscience que le méditant cherche à atteindre. Accompagnant et précédant souvent la liturgie, la musique rituelle tibétaine ne fait pas appel à la mélodie. Elle développe un rythme, des sons que l'on dirait jaillis de l'univers, avec cette référence naturelle aux sources, aux cascades, aux avalanches, aux éruptions, aux orages. Plus qu'une émanation sonore de l'univers, elle a pour finalité de restituer la respiration même de celui-ci. C'est le souffle des éléments qui résonnent dans les gombas. Les sons des différents instruments peuvent, selon la croyance, s'identifier avec ceux produits par le corps, tels qu'on les perçoit lorsqu'ayant bouché hermétiquement les oreilles avec les doigts, l'on entre dans une autre relation avec l'environnement.
Des sauts de création.
Chapitre 33. Les carrefours de l'audiovisuel.
Le décret Valmiféo de 1991 est dépassé dans les faits avant d'être appliqué, car les grandes radios commerciales réclament un statut de réseau couvrant le territoire de toute la communauté. L'instance fédérale de répression est paralysée non seulement parce que son instrument, l'IBPT, ne sera fonctionnel qu'à partir de février 1994, mais aussi parce que l'ancien plan de fréquence est obsolète et qu'il n'y a pas de nouveau plan de fréquence auquel se référer. Cette double absence d'un cadre juridique favorise évidemment les situations illégales, ce dont profitent les radios commerciales aux dents longues et non les radios associatives d'expression, accrochées par conviction ou par nécessité à leur légalisme.
Henri Simons, député, dans le soir du 9 mars 1993.
L'état de fait supplante l'état de droit. En matière de développement des radios en communauté française, l'échec de l'autorité est patent. Les exécutifs PS-PSC se révèlent incapables de mettre en place et de faire respecter un réel projet politique, assorti de garanties juridiques et de moyens de soutien à la création. L'inertie reste aujourd'hui le seul facteur de cohérence d'une non-décision politique. Pour les radios, la loi du plus fort semble être la meilleure.
Journal Le Soir du 31 mars 1993.
200 plaintes traînent dans les tiroirs des procureurs du roi, la plupart concernant des problèmes de surpuissance.
C'est dans ce contexte que le nouveau ministre de l'Audiovisuel, Élodie Rupaut, lance en septembre 1993 les carrefours de l'audiovisuel. Le groupe sur les radios est présidé par Jean-Charles de Keyser, le directeur de RTL, et composé de 8 représentants de réseau, plus un représentant indépendant, Philippe Delchambre. Le rapport final de synthèse recommande la constitution de réseaux ainsi que l'existence de radios dites socioculturelles, lieux de promotion sociale et culturelle et d'éducation permanente. Extrait.
Il convient qu'une place significative soit réservée aux radios dites socioculturelles. En effet, dans le souci d'offrir au public un choix pluraliste, le rôle des radios socioculturelles s'avère complémentaire et indispensable. Leur nombre pourrait être accru. Il est aussi recommandé que dans le nouveau plan de fréquence, un réseau interactif de radios socioculturelles à vocation communautaire puisse être mis en place, suivant des modalités à déterminer.
Le projet d'un réseau alternatif, initié par Philippe Delchambre, intéresse les paniquiens par son caractère positif et offensif. On se réunit avec notamment Marc-Antoine de Radio Atelier Arlon et les fondateurs de RUN, la radio universitaire de Namur. On fonde une association, le réseau interactif des radios d'expression, le RIRE. L'utilisation de la technologie du RNIS permettrait de constituer un réseau de radios associatives sans tête de réseau, décentralisé donc, et interactif. Chaque radio aurait la possibilité d'émettre en direct son programme, de le transférer à une autre radio ou d'émettre un programme émanant d'une autre radio. Très vite cependant, le rire disparaît, son financement apparaît alors bien au-dessus des moyens des radios et le conseil d'administration de Radio Campus refuse de participer à l'initiative.
Début 1994, Boris Libois, actuellement vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, exprime sa déception sur les carrefours de l'audiovisuel dans la revue Soupçon.
Beaucoup de blabla et guerre ou pas de décision. Une fois les lampions éteints, on en revient à la même politique qu'avant, celle du fait accompli et de l'attentisme.
Frédéric Antoine.
Mais j'ai des impressions justement assez vagues parce que je n'y ai pas participé en tant qu'acteur. Donc, à part avoir été à une ou deux réunions et à la séance de conclusion qui s'est déroulée en grand barnum dans les cinémas de Mons, moi j'ai l'impression que Shakespeare avait trouvé un très beau titre pour ce genre d'opération. Hein. Beaucoup de bruit pour rien, quoi. Donc, il s'est passé. On a remué le banc et l'arrière-banc du secteur audiovisuel en faisant miroiter des possibilités de réflexion avec des adaptations pour la suite. Et une fois que tout le monde a exprimé tous ses souhaits et toutes ses envies, on a tiré des conclusions très générales qui n'ont abouti à rien du tout. Donc,
par manque de volonté politique.
Ah, visiblement. Mais la question était de savoir si lorsque l'opération a été lancée, il y en avait déjà un tout petit peu, et si elle a fondu au fur et à mesure, ou bien si ce n'est pas le type d'opération qu'on organise parce qu'on estime qu'il est bon, à un moment donné, de se donner une image de personne pouvant gérer un dialogue et mettre les gens en présence pour dire des choses, et puis en fin de compte... De toute façon, la ligne est tracée et à peine les carrefours terminés, eh bien effectivement, on pensait déjà au plan, au décret suivant, aussi bien pour la RTBF que pour les radios, etc. Donc tout ça n'a pas... Il n'y a pas de retombée de ces carrefours dans quelques décisions que ce soit. On a continué dans les mêmes rails que ceux dans lesquels on était depuis 10 ans avant.
Carmelo Iannuzzo.
Ce carrefour de l'audiovisuel a été organisé à un moment clé dans l'histoire de la bande de fréquence, du plan de fréquence, de la fréquence modulée en Belgique. Ça a été un moment où c'était la fédéralisation du plan de fréquence, c'était un moment clé où chaque communauté avait à déterminer sa politique. Et c'est ce carrefour de l'audiovisuel qui a déterminé la politique de la communauté française, qui a été suivie par Uncle Links. Et bien sûr, qui a été fort appuyé par les réseaux du côté francophone. Ça, c'est clair et net. Donc c'est un moment clé et super important. Ça a été que du bavardage, oui, ça a été que du bavardage pour les radios, peut-être. Les radios associatives. Mais ça, je le dis même plus quand je regarde l'histoire, ça devient une habitude. Oui, ça a été que du bavardage, parce que du point de vue de ces radios-là, oui. Mais on se voit dessiner... C'est là qu'on voit que le décret 91... Toutes les catégories décrites par le décret 91 sont oubliées, et que ce sont deux catégories, les deux seules catégories qui sont gardées, parce que ces deux catégories étaient déjà là dans le décret 91... Donc, qui sont déterminés par un critère structurel qui est celle de radio indépendante et de réseau. Et il n'y a plus que ces deux catégories-là qui sont retenues. Et donc il y a ce petit article, paragraphe 2, article 38, je crois, qui donne, si tu veux, qui demande que le CSA, dans l'élaboration, l'attribution des fréquences, donne une certaine priorité aux radios à vocation socioculturelle. Et c'est comme ça que le carrefour, si tu veux, c'est comme ça que les conclusions de ce carrefour ont donné naissance déjà au décret 97.
En décembre 1993, la communauté française adopte un décret visant à permettre au gouvernement d'accorder aux radios privées une puissance d'émission supérieure, si cela est nécessaire, selon elles, pour atteindre leur public cible. En mars 1994, nouveau décret, les reconnaissances et les fréquences ne sont attribuées qu'à titre provisoire. C'est qu'entre-temps, les recours au Conseil d'État pullulent. Ils émanent des opérateurs, se jugeant lésés par l'application pour le moins aventureuse, sinon discriminatoire, du décret de décembre 1993. Évidemment, les opérateurs qui en ont bénéficié, et qui, suite au décret de mars 1994, se voient obligés de mettre le pied sur la pédale de frein, s'adressent également au Conseil d'État. Plus gênant encore, est le recours de la communauté flamande, se plaignant du cavalier seul de la communauté française, qui attribue des puissances trop élevées, sans adresser aucune demande de coordination auprès de l'IBPT, ainsi que l'arrêté royal de janvier 1992 le prévoyait. Dans ces années-là, alors que la communauté flamande, sous la coupe du CVP, protège avant tout la VRT et bloque la constitution de réseaux en favorisant la prolifération de radios locales à faible puissance, la communauté française, elle, toujours dominée par un parti socialiste affairiste, ne développe aucune politique structurelle vis-à-vis des radios associatives d'expression et, dans un contexte de conquête de la bande FM face à la communauté flamande, prend fait et cause pour les réseaux.
Lorsque arrivera en 94 seulement l'établissement du plan de fréquence, effectivement, les grandes radios commerciales obtiennent des puissances incroyables, de plusieurs milliers de watts, tandis que les radios associatives, en général, reçoivent au maximum 100 watts, du moins à Bruxelles.
Mmh. Oui. C'est la suite d'un processus logique. C'est la suite, oui, d'un processus qui a été amorcé dans les années 80. Et je pense que lorsque les reconnaissances finalement se font au point de vue technique en communauté française, on continue à appliquer le schéma de paysage audiovisuel qui était défini en gros par le décret de 87. Et là, on peut dire que la marque que le PRL a donnée à la politique des médias en communauté française dans les années 80, bon, on est toujours jusqu'à aujourd'hui les héritiers, si on peut parler d'héritage.
Et comment peut-on la décrire, cette ligne générale?
La ligne, c'est de déterminer le secteur de l'audiovisuel comme étant un secteur d'abord économique, et donc dans lequel ce qu'il faut, c'est favoriser des agents économiques porteurs à la fois de projets économiques, de rentabilité financière et de circulation de capitaux. Et donc, à partir de ce moment-là, dans l'audiovisuel télévisé, on favorise les télévisions privées au détriment de la télévision publique. Et dans le secteur de la radio, on favorise la radio comme entreprise. Et on tolère la présence à côté de la logique de l'entreprise d'un secteur socioculturel parce qu'on ne peut pas le supprimer totalement.
On s'est battu là-dessus comme jamais dans la fin des années 80 et début des années 90. Et on a échoué.
On a échoué, mais il faut aussi se replacer dans l'époque, les années 80, certainement le milieu des années 80, c'est l'époque aussi des pouvoirs spéciaux, c'est aussi l'époque où, grâce à tout un entourage de CCC, de Tueur du Brabant Wallon, etc., la police règne en maître, et on a un gouvernement de droite qui ne jure que par Thatcher et par Reagan. Et donc, si on regarde au niveau social, le recul pour les travailleurs, ça représentait un tiers de leur revenu qui y est passé, quoi. Donc c'est le détricotage aussi de la sécurité sociale. Donc tout ce qu'on avait pu avoir comme moyen d'expression, comme bien-être social, etc., il y a eu un recul terrible. Je pense qu'il y a eu vraiment une avancée d'un libéralisme et d'un économisme à tout craint, qui a eu, entre autres, comme des conséquences négatives pour les radios associatives. Mais ce n'est pas uniquement pour les radios associatives, c'est pour tout le monde associatif, et je pense pour le social en général. Ça, c'est une chose. D'autre part, il n'y a jamais eu de prise en considération du fait des radios. Donc c'est vrai qu'on s'est battu au niveau législatif pour avoir des décrets, etc. Mais on n'est toujours pas reconnu aujourd'hui pour le travail qu'on fait.
12, Razmataz, les ringards déchaînés, Rignard, Rock'n'Stock...
Les gens de panique.
Rock Minute Soup.
Attention à vos marques, prêts?
Allons.
Oui.
Rap.
Allez, vas-y, mon pote.
bonsoir le petit monde, bonsoir Medjan, t'as un vrai bonheur là puisque tu tombes comme un poil de chou dans le Rock Minute Soup. L'équipe ARMS Patricia à la touche exotico-théâtrale, Bernard Bernard au billet d'humeur expresso, Interminiolette aux manettes et Mister Soup à la tchatch conception et programmation.
Le Rock Minute Soup, c'est au départ une émission musicale basée sur l'actualité du rock. Rock pris au sens large, je dirais rock pris au sens du magazine Les Inrecuptibles, qui est souvent, je veux dire, pris comme référence pour tout un certain courant, mais aussi rock au sens un peu plus large, puisque on essaie d'englober toute une culture qui passe par les arts de la scène, par la littérature aussi, éventuellement par le cinéma. Et donc, ça forme une espèce de magazine culturel où la musique a une place prédominante, mais jamais unique, quoi. Il y a toujours des interventions différentes. Donc, ça, c'est au niveau, je veux dire, information. Et puis, il y a tout un volet billets d'humeur, petits montages, petites pièces travaillées qui s'insèrent dans l'émission et qui leur donnent vraiment un aspect très... très gai. Bon, je pense à des petits jingles, je pense à des petites rubriques, parfois des petites scénettes, pas toujours improvisées, d'ailleurs parfois assez travaillées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a eu évidemment le zapping, bon, qui est maintenant un peu en veille pour cause de manque de temps, mais pendant tout un temps, on avait une petite rubrique zapping radio de 5 minutes toutes les semaines qui résumait un peu notre vagabondage radiophonique de la semaine.
Rock Minute Soup est diffusé en direct sur Panic à partir de novembre 1992. 6 mois plus tard, elle émigre à Rennes, mais restera au menu de Panic.
Le concept de Rock Minute Soup, je pense qu'il ne va pas encore durer des années. Je vois déjà un certain essoufflement. C'est vrai qu'on vieillit. On a chacun les activités, parfois très prenantes, de part et d'autre. Jean-Christophe a une famille qui s'agrandit. Et bon, ici, on est arrivé à un point maintenant, à l'heure actuelle, donc en mai 2001, à avoir des problèmes de régularité sur antenne, alors que aux grandes heures, on était là chaque semaine et Jean-Christophe pouvait être malade, tout ce qu'il voulait. Il était là, on avait une émission, on était extrêmement régulier. On ne pourrait plus dire ça maintenant, malheureusement, et je pense que c'est tout le lot d'un programme fait par des bénévoles où finalement, on est toujours dépendant des moyens que d'autres activités.
C'est typique un peu d'un temps radiophonique propre à des émissions dans les radios associatives, en quelque sorte.
Oui, certainement. Et c'est vrai que c'est un parallèle que je n'avais jamais fait, mais on pourrait faire le parallèle entre l'écoute, qui finalement est une activité qui est déterminée par ce que les autres activités lui laissent, hein, et la pratique de la radio par des bénévoles, qui est aussi une activité qui est délimitée par le temps libre qu'on a.
Et que personne ne l'oublie.
On est toujours pas reconnu aujourd'hui pour le travail qu'on fait.